un seul intervenant, donc désolé, c'est encore moi. Je voudrais simplement cette lecture donc du prologue de Jean a suscité une petite méditation personnelle dont je voudrais simplement vous la partager comme une continuité dans ces moments maintenant. Alors c'est vrai que nous sommes parfois inquiets devant l'instabilité de ce monde où tout change vite, même très très vite, ne serait-ce que dans notre pays. Mais Dieu veut nous rassurer en attirant notre attention sur ceux qui demeurent éternellement. Ainsi, nous terminerons notre matinée en prolongeant ce propos sur le fait que, comme Christ demeure éternellement, d'autres réalités par lui sont également permanentes, sûres et efficaces. Je vous propose... Ah, pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Donc, dans le psaume 102, deux versets. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Alors le contexte de ces versets qui sont retirés, c'est une situation très difficile et d'inquiétude pour l'auteur de ce psaume. Et dans son inquiétude pour sa vie, le psalmiste réalise combien il peut compter sur Dieu en lien à sa permanence divine. Mais toi, tu restes le même. Sous-entendu, je peux toujours compter sur toi. Toujours faire appel à toi. Si même les cieux et cette terre même doivent disparaître un jour, Dieu demeure éternellement et avec lui la possibilité de salut, de soutien en toutes circonstances. Alors nous avons évoqué tout à l'heure dans notre culte la permanence de Christ, entre autres. Et cette permanence-là de notre Seigneur s'élargit à ce qui concerne toutes ses actions, ses paroles, ses intentions pour nous. Et il en va de même pour son salut permanent. Ainsi, nous pouvons dire qu'il y a permanence de la parole du Seigneur demeure éternellement, c'est le texte de 1 Pierre 1, 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mais ce n'est pas sans opposition, vous le savez bien, que cette parole permanente est demeurée jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, il y a une petite anecdote. Il se dit, en tout cas de l'écrivain français Chateaubriand, que celui-ci était connu de son épouse sans que celle-ci n'ait jamais lu une seule ligne de ses livres, de ses écrits. Son épouse pensait le connaître sans avoir jamais lu ce qu'il avait écrit. Il se dit même qu'elle vendait les livres de son mari pour récolter de l'argent pour les pauvres. Alors ça, l'intention, elle est bonne. Le moyen, par contre, il l'est peut-être moins. Alors si les écrits de Chateaubriand ont été ainsi méprisés, alors même que méconnus par son épouse elle-même, concernant la parole de Dieu, cela fut pire encore au cours des siècles. Connue ou méconnue, elle fut et combattue. La Bible décrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 36, le mépris d'un roi à l'égard du livre de Jérémie, un homme qui écrivait sous l'inspiration de Dieu. Voici ce qu'il nous est dit. « Lorsqu'il a entendu la lecture, le roi découpa les deux parties du livre à l'aide d'un couteau et les jeta au feu. Il montrait ainsi son mépris envers les paroles que Dieu a voulu lui adresser. » La Bible, parole de Dieu, est le livre qui a été le plus brûlé au monde, notamment lors des persécutions religieuses, que ce soit en France ou bien lors de l'Inquisition en Espagne. Ce sont que des exemples. Jamais aucun livre n'a provoqué autant d'opposition. Mais plus on a voulu le détruire, plus encore cette parole a été diffusée et elle a suscité l'intérêt sur la terre entière. C'est le cas encore aujourd'hui. Incontestablement, la Bible est le best-seller de l'édition des livres dans le monde entier. Écrite par une quarantaine d'auteurs sur à peu près 1500 ans, 15 siècles, elle présente une unité parfaite qui, si besoin en était, démontre son inspiration divine. On y découvre le début comme la fin des temps. On y découvre la création des cieux et la terre comme leur fin prédite également. On y découvre notre création et surtout notre destinée, celle que Dieu a voulu pour nous, mais qui dépend de notre foi. Cette parole est un code de vie pour tous. Les passages de la parole nous disent qu'elle est utile, utile pour enseigner, pour corriger, afin que nous puissions mener une vie conforme. Et si elle est particulièrement précieuse pour l'humanité tout entière, c'est parce que l'on y découvre le message de la vie et le message de la vie éternelle. Voilà pourquoi cette parole est précieuse et en même temps permanente. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Il en était question en début ce matin. C'est connaître Christ. Alors l'épouse de Chateaubriand ne devait pas beaucoup connaître les pensées de son époux. Et j'espère qu'il en est autrement de nous quant aux écrits divins de la parole de Dieu. J'espère qu'il en est autrement de nous. Un texte dans 2 Pierre, les versets au chapitre 1 et le verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique de Dieu, sûre et permanente. Les paroles des hommes sont multiples, peut-être même les miennes, éphémères, contradictoires parfois, souvent mensongères. Et l'actualité nous le démontre tous les jours. Parfois, ces mêmes paroles sont malheureusement, elles sortent malheureusement de nos propres bouches. Les hommes de l'époque de Pierre, comme d'aujourd'hui, mettaient en priorité quoi ? Ils mettaient en priorité leur connaissance ou leur expérience, et ils s'en servaient comme référence à leur choix de vie. Connaissance, expérience pour nos choix de vie. Mais avec ces textes, Pierre nous indique la supériorité permanente de la parole de Dieu à laquelle chacun doit prêter une attention particulière, c'est son propos. Parce qu'elle demeure éternellement et parce qu'elle influe la destinée éternelle de nos âmes, cette parole de Christ, parole de Dieu, doit être l'objet de toute notre attention, préoccupation. Et cela vaut pour tous les hommes en général. Alors à cette permanence de la parole est attachée une invitation tout aussi permanente et pressante, même pour les enfants de Dieu. Un Pierre de 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Cette parole est comparée là à du lait nourrissant. L'avidité, en fait, du bébé qui réclame son lait est l'image qui pour nous montre le désir qui doit être le nôtre pour la parole du Seigneur. L'un de mes petits-enfants, on en a cinq avec Dani, je vais le citer, Mathéo, de tout petit, dès qu'il voyait préparer le biberon, c'était terrible. C'était décrit, il n'en pouvait plus, ça n'allait jamais assez vite. Jamais assez vite. Après, avant même le biberon, il repérait les gestes qui allaient préparer le biberon. Et là, déjà, il commençait de nouveau à crier et à réclamer. Et quand il l'avait, c'était le glouton. C'est un peu comme ça que nous devrions être vis-à-vis de la parole de Dieu. Et malheureusement, nous ne le sommes pas assez. Pour continuer sur le thème de la permanence de Christ, de la parole, il y a aussi, bien sûr, la permanence des promesses de Christ. Alors ça, c'est formidable. Des promesses qui tiennent. Vous aimez, vous, les promesses qui ne sont pas tenues ? Pas bien, hein ? La permanence des promesses de Christ pour nous, des promesses de sa parole en notre faveur, qui nous invite à quoi ? Eh bien, à la persévérance. Une persévérance dont notre salut n'est en aucune manière dépendant, mais une persévérance qui témoigne de notre salut et rend grâce et gloire à notre Seigneur. Par exemple, la permanence des promesses telles que « Je serai toujours avec vous ». Toujours. « J'aurai le regard sur vous ». Toujours. Personne ne vous ravira de ma main. Et personne ne vous ravira de la main de mon Père. Je prierai le Père pour vous. Je vous prépare une place. Je reviendrai vous chercher. Vous serez toujours avec moi. Tout autant de promesses inébranlables qui nous invitent à la persévérance, et cela même au milieu des difficultés. Nous souvenir de ces promesses inébranlables. Et puis bien sûr la promesse d'un salut éternel, définitif. Un salut éternel, comme on a pu le lire dans le texte, acquis une fois pour toutes, définitivement pour toutes celles et ceux que Christ a appelé à cette foi salutaire. Dans sa première épître, Jean nous rappelle que celui qui a le Fils a la vie. Et tout son propos tient à rappeler que nous avons la vie éternelle. Nous, qui croyons au Fils unique de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Et cette entrée dans le salut par la foi, Paul précise aux Philippiens, premier chapitre, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre de salut la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Ça aussi, c'est une promesse. Quand il dit « rendra parfaite », il fait référence à la sécurité du croyant dans son salut, par le fait qu'il achève parfaitement son œuvre de salut. Et de quelle manière? En nous assurant ce salut de manière définitive. Et l'apôtre Paul de déclarer dans l'épître aux Romains que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. La promesse d'un salut qui, une fois est acquis, est permanent, définitif. Il y a également la promesse de la permanence de Christ en nous. Ça aussi, c'est une promesse qui tient. Et moi, c'est-à-dire Christ, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il prendra de ce qui est à moi, Christ, et vous l'annoncera. De cette manière-là, nous sommes scellés définitivement en Christ et Christ en nous. Ce ne sont pas nos chutes qui attristent, bien sûr, malheureusement, l'Esprit Saint en nous, qui peuvent remettre en question cette permanence du Seigneur en nous. J'en veux pour preuve la tristesse que l'enfant de Dieu éprouve lorsqu'il a fauté. Vous connaissez cette tristesse quand vous avez fauté? Est-ce que vous ressentez cette tristesse quand vous avez fauté? Quand nous nous repentons et que nous abandonnons notre péché, cette œuvre-là montre l'action réconciliatrice et permanente de Christ en nous. Ça, c'est la preuve de Christ en nous, que d'être attristé de nos fautes. Et nous sommes poussés à la repentance. Alors, il y a quelques années, j'aurais demandé qu'on, en termes de change, juste citer des paroles. Il vit aujourd'hui, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Et celui qu'on chantait tout de suite et qui suivait, un petit clin d'œil à Jacqueline, notre Dieu règne encore. Tout ce qu'il promet, dit ce chant, reste vrai pour jamais. La permanence de ses promesses doit à la fois nous rassurer sur le fait que nous serons gardés jusqu'au bout malgré nos imperfections et malgré les circonstances les plus difficiles que nous puissions vivre. Et en même temps, la permanence de ces promesses doit nous encourager dans notre vie de serviteur à la gloire du Père. L'œuvre du Seigneur produit en nous les mêmes effets de permanence. 1 Jean 2, 17, « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà les effets de Christ en nous. Mais alors, qui c'est qui fait la volonté de Dieu? Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est d'abord celui qui se repent, qui confesse à Dieu ses péchés et accepte son pardon. Celui-là fait la volonté de Dieu. Il reçoit alors une vie nouvelle et la certitude de passer l'éternité avec Jésus dans le ciel. Il demeure d'ores et déjà éternellement. Alors en conclusion, ainsi Il ne s'agit en Christ que de choses durables, permanentes, sur lesquelles on ne peut pas douter, même si parfois on est tenté ou poussé. Paul, dans sa deuxième aux Corinthiens, au verset 19, il enfonce le clou quant à la permanence des promesses et des paroles de Christ. Non pas qu'il veuille lui-même s'en persuader, mais pour nous donner une ferme assurance en Christ. C'était ça son propos. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, il s'adressait aux Corinthiens, et on pourrait dire Christ qui a été prêché par tous ceux qui nous enseignent ici, dans cette église, Christ n'a pas été oui et non. Alors je vous donne cette promesse, et puis du coup je vous la reprends. Je vous donne la vie, et puis du coup, oh, tout compte fait, je te la reprends, tiens. Christ qui a été prêché et qui est prêché n'est pas oui et non. Pas d'hésitation sur les promesses données. Mais c'est oui qui a été en lui. Le oui en Christ. Car tout ce qui concerne toutes les promesses de Christ, de Dieu, c'est en lui. Et le oui. Et du coup, il termine, et c'est pourquoi encore l'amen, c'est-à-dire qui scelle, qui dit oui, c'est d'accord, elles sont oui, je le sais, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, pour conclure notre partage, nous disons également ce matin, j'espère de tout cœur, amen à toutes les promesses de Christ, car elles sont oui, elles sont certaines, elles sont permanentes, elles sont à l'image de notre Seigneur. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint comme fils et héritier, c'est Dieu. À lui soit la gloire dans nos vies. Voilà, je vous souhaite maintenant de pouvoir peut-être échanger si vous n'avez pas eu l'occasion, faire connaissance. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et pour ceux qui ne connaissent pas Christ.